Honoré de Balzac, Illusion perdue, 41. Après le dîner, David reconnut que l'almanach aurait dû être composé en 8 jours. Puis, en apprenant que les Cointet en préparaient un semblable, il vint au secours de sa femme. Il fit interrompre à Kolb la vente des feuilles d'images et dirigea tout dans son atelier. Il mit en train lui-même une forme que Kolb dut tirer avec Marion, tandis que lui-même tira l'autre avec Cériset, en surveillant les impressions en encre de diverses couleurs. Chaque couleur exige une impression séparée. 4 encres différentes veulent donc 4 coups de presse. Imprimé 4 fois pour une, l'almanach des bergers coûte alors tant à établir qu'il se fabrique exclusivement dans les ateliers de province où la main-d'œuvre et les intérêts du capital engagé dans l'imprimerie sont presque nuls. Ce produit, quelque grossier qu'il soit, est donc interdit aux imprimeries d'où sortent de beaux ouvrages. Pour la première fois depuis la retraite du vieux Séchard, on vit alors 2 presses roulant dans ce vieil atelier. Quoique l'almanach fût, dans son genre, un chef-d'œuvre, néanmoins, Ève fut obligée de le donner à 2 liards, car les frères Cointet donnèrent le leur à 3 centimes au colporteur. Elle fit ses frais avec le colportage. Elle gagna sur les ventes directement faites par Kolb. Mais sa spéculation fut manquée. En se voyant devenu l'objet de la défiance de sa belle patronne, Cériset se posa dans son fort intérieur en adversaire, et il se dit « Ah, tu me soupçonnes, je me vengerai. » Le gamin de Paris est ainsi fait. Cériset accepta donc de messieurs Cointet frères des émoluments évidemment trop forts pour la lecture des épreuves qu'il allait chercher à leur bureau tous les soirs et qu'il leur rendait tous les matins. En causant tous les jours davantage avec eux, il se familiarisa, finit par apercevoir la possibilité de se libérer du service militaire qu'on lui présentait comme appât, et, loin d'avoir à le corrompre, les Cointet entendirent de lui les premiers mots relativement à l'espionnage et à l'exploitation du secret que cherchait David. Inquiète, en voyant combien elle devait peu compter sur Cériset et dans l'impossibilité de trouver un autre Kolb, Ève résolut de renvoyer l'unique compositeur en qui sa seconde vue de femme aimante lui fit voir un traître. Mais comme c'était la mort de son imprimerie, elle prit une résolution virile. Elle pria par une lettre M. Métivier, le correspondant de David Séchard, des Cointet et de presque tous les fabricants de papier du département, de faire mettre dans le journal de la librairie à Paris l'annonce suivante. ACD, une imprimerie en pleine activité, matériel et brevet, situé à Angoulême, s'adresser, pour les conditions, à M. Métivier, rue Serpente. Après avoir lu le numéro du journal où se trouvait cette annonce, les Cointet se dirent « Cette petite femme ne manque pas de tête. Il est temps de nous rendre maître de son imprimerie en lui donnant de quoi vivre. Autrement, nous pourrions rencontrer un adversaire dans le successeur de David » et notre intérêt est de toujours avoir un œil dans cet atelier. » Mus par cette pensée, les frères Cointet vinrent parler à David Séchard. Ève, à qui les 2 frères s'adressèrent, éprouva la plus vive joie en voyant le rapide effet de sa ruse, car ils ne lui cachèrent pas leur dessein de proposer à M. Séchard de faire des impressions à leur compte. Ils étaient encombrés, leur presse ne pouvait suffire à leurs travaux, ils avaient demandé des ouvriers à Bordeaux et se faisaient fort d'occuper les 3 presses de David. « Messieurs, » dit-elle aux deux frères Cointet, pendant que Cérizet allait avertir David de la visite de ses confrères, « mon mari a connu chez messieurs Didot d'excellents ouvriers probes et actifs. Il se choisira sans doute un successeur parmi les meilleurs. Ne vaut-il pas mieux vendre son établissement une vingtaine de 1000 francs, qui nous donneront 1000 francs de rente, que de perdre 1000 francs par an au métier que vous nous faites faire? Pourquoi nous avoir envié la pauvre petite spéculation de notre almanach, qui d'ailleurs appartenait à cette imprimerie? Et pourquoi, madame, ne pas nous en avoir prévenus? Nous ne serions pas allés sur vos brisées, » dit gracieusement celui des deux frères qu'on appelait le grand Cointet. « Allons donc, messieurs, vous n'avez commencé votre almanach qu'après avoir appris par Cérizet que je faisais le mien. » En disant ces paroles vivement, elle regarda celui qu'on appelait le grand Cointet et lui fit baisser les yeux. Elle acquit ainsi la preuve de la trahison de Cérizet. Ce Cointet, le directeur de la papeterie et des affaires, était beaucoup plus habile commerçant que son frère Jean, qui conduisait d'ailleurs l'imprimerie avec une grande intelligence, mais dont la capacité pouvait se comparer à celle d'un colonel, tandis que Boniface était un général auquel Jean laissait le commandement en chef. Boniface, homme sec et maigre, à figure jaune comme un cierge et marbré de plaques rouges, à bouche serrée et dont les yeux avaient de la ressemblance avec ceux des chats, ne s'emportait jamais. Il écoutait, avec le calme d'un dévot, les plus grosses injures et répondait d'une voix douce. Il allait à la messe, à confesse et communiait. Il cachait, sous ses manières patelines, sous un extérieur presque mou, la ténacité, l'ambition du prêtre et l'avidité du négociant dévoré par la soif des richesses et des honneurs. Dès 1820, le grand Cointet voulait tout ce que la bourgeoisie a fini par obtenir à la Révolution de 1830. Plein de haine contre l'aristocratie, indifférent en matière de religion, il était dévot comme Bonaparte fut montagnard. Son épine dorsale fléchissait avec une merveilleuse flexibilité devant la noblesse et l'administration pour lesquelles il se faisait petit, humble et complaisant. Enfin, pour peindre cet homme par un trait dont la valeur sera bien appréciée par des gens habitués à traiter les affaires, il portait des conserves à verre bleu à l'aide desquelles il cachait son regard, sous prétexte de préserver sa vue de l'éclatante réverbération de la lumière dans une ville où la terre, où les constructions sont blanches et où l'intensité du jour est augmentée par la grande élévation du sol. Quoique sa taille ne fût qu'un peu au-dessus de la moyenne, il paraissait grand à cause de sa maigreur, qui annonçait une nature accablée de travail, une pensée en continuelle fermentation. Sa physionomie jésuitique était complétée par une chevelure plate, grise, longue, taillée à la façon de celle des ecclésiastiques, et par son vêtement qui, depuis 7 ans, se composait d'un pantalon noir, de bas noirs, d'un gilet noir et d'une lévite, le nom méridional d'une redingote, en drap couleur marron. On l'appelait le grand Cointet pour le distinguer de son frère, qu'on nommait le gros Cointet, en exprimant ainsi le contraste qui existait autant entre la taille qu'entre les capacités des deux frères, également redoutables d'ailleurs. En effet, Jean Cointet, bon gros garçon à face flamande, bruni par le soleil de l'Angoumois, petit et court, pansu comme Sancho, le sourire sur les lèvres, les épaules épaisses, produisait une opposition frappante avec son aîné. Jean ne différait pas seulement de physionomie et d'intelligence avec son frère. Il professait des opinions presque libérales. Il était centre-gauche, n'allait à la messe que les dimanches et s'entendait à merveille avec les commerçants libéraux. Quelques négociants de L'Houmeau prétendaient que cette divergence d'opinion était un jeu joué par les deux frères. Le grand Cointet exploitait avec habileté l'apparente bonhomie de son frère. Il se servait de Jean comme d'une massue. Jean se chargeait des paroles dures, des exécutions qui répugnaient à la mansuétude de son frère. Jean avait le département des colères. Il s'emportait, il laissait échapper des propositions inacceptables qui rendaient celles de son frère plus douces. Et ils arrivaient ainsi, tôt ou tard, à leur fin. Ève, avec le tact particulier aux femmes, eut bientôt deviné le caractère des deux frères. Aussi resta-t-elle sur ses gardes en présence d'adversaires si dangereux. David, déjà mis au fait par sa femme, écouta d'un air profondément distrait les propositions de ses ennemis. « Entendez-vous avec ma femme ? » dit-il aux deux Cointet en sortant du cabinet vitré pour retourner dans son petit laboratoire. « Elle est plus au fait de mon imprimerie que je ne le suis moi-même. Je m'occupe d'une affaire qui sera plus lucrative que ce pauvre établissement et au moyen de laquelle je réparerai les pertes que j'ai faites avec vous. »« Et comment ? » dit le gros Cointet en riant. Ève regarda son mari pour lui recommander la prudence. « Vous serez mes tributaires, vous et tous ceux qui consomment du papier, » répondit David. « Et que cherchez-vous donc ? » demanda Benoît, Boniface, Cointet. Quand Boniface eut lâché sa demande, d'un ton doux et d'une façon insinuante, Ève regarda de nouveau son mari pour l'engager à ne rien répondre ou à répondre quelque chose qui ne fût rien. « Je cherche à fabriquer le papier à 50% au-dessous du prix actuel de revient. » Et il s'en alla, sans voir le regard que les deux frères échangèrent, et par lequel il se disait « Cet homme devait être un inventeur. On ne pouvait pas avoir son encolure et rester oisif. « Exploitons-le, » disait Boniface. « Et comment ? » disait Jean. « David « Agis avec vous comme avec moi, » dit Madame Séchard. « Quand je fais la curieuse, il se défie sans doute de mon nom et me jette cette phrase qui n'est après tout qu'un programme. »«
Si votre mari peut réaliser ce programme, il fera certainement fortune plus rapidement que par l'imprimerie. Et je ne m'étonne plus de lui voir négliger cet établissement, » reprit Boniface, en se tournant vers l'atelier désert où Kolb, assis sur un ais, frottait son pain avec une gousse d'ail. « Mais il nous conviendrait peu de voir cette imprimerie aux mains d'un concurrent actif, remant, ambitieux, et peut-être pourrions-nous arriver à nous entendre. Si, par exemple, vous consentiez à louer pour une certaine somme votre matériel à l'un de nos ouvriers qui travaillerait pour nous, sous votre nom, comme cela se fait à Paris, nous occuperions assez ce gars-là pour lui permettre de vous payer un très bon loyer et de réaliser de petits profits. « Cela dépend de la somme, » répondit Ève Séchard. « Que voulez-vous donner ? » ajouta-t-elle en regardant Boniface de manière à lui faire voir qu'elle comprenait parfaitement son plan.
« Mais quelles seraient vos prétentions ? » répliqua vivement Jean Cointet.
« 3 000 francs pour 6 mois, » dit-elle.
« Eh, ma chère petite dame, vous parliez de vendre votre imprimerie 20 000 francs, » répliqua tout doucettement Boniface. « L'intérêt de 20 000 francs n'est que de 1 200 francs à 6%. »
Ève resta pendant un moment tout interdite et reconnut alors tout le prix de la discrétion en affaires.
vous vous servirez de nos presses, de nos caractères, avec lesquels je vous ai prouvé que je savais faire encore de petites affaires, reprit-elle. Et nous avons des loyers à payer à M. Séchard le père, qui ne nous comble pas de cadeaux. » Après une lutte de 2 heures, Ève obtint 2 000 francs pour 6 mois, dont 1 000 seraient payés d'avance. Quand tout fut convenu, les deux frères lui apprirent que leur intention était de faire à Cériset le bail des ustensiles de l'imprimerie. Ève ne put retenir un mouvement de surprise.
« Ne vaut-il pas mieux prendre quelqu'un qui soit au fait de l'atelier ?» dit le gros Cointet.
Ève salua les deux frères sans répondre et se promit de surveiller elle-même Cériset.
Eh bien, voilà nos ennemis dans la place, dit en riant David à sa femme,
quand, au moment du dîner, elle lui montra les actes à signer.
Bah, dit-elle, je réponds de l'attachement de Kolb et de Marion. À eux deux, ils surveilleront tout.
D'ailleurs, nous nous faisons 4 000 francs de rente d'un mobilier industriel qui nous coûtait de l'argent. Et je te vois 1 an devant toi pour réaliser tes espérances.
« Tu devais être la femme d'un chercheur d'invention !» dit Séchard en serrant la main de sa femme avec tendresse.
Si le ménage de David eut une somme suffisante pour passer l'hiver, il se trouva sous la surveillance de Cériset et, sans le savoir, dans la dépendance du grand Cointet.
« Ils sont à nous !»
dit en sortant le directeur de la papeterie à son frère l'imprimeur.
Ces pauvres gens vont s'habituer à recevoir le loyer de leur imprimerie. Ils compteront là-dessus et ils s'endetteront. Dans 6 mois, nous ne renouvellerons pas le bail. Et nous verrons alors ce que cet homme de génie aura dans son sac, car nous lui proposerons de le tirer de peine en nous associant pour exploiter sa découverte.
Si quelque rusé commerçant avait pu voir le grand Cointet prononçant ces mots, en nous associant, il aurait compris que le danger du mariage est encore moins grand à la mairie qu'au tribunal de commerce. N'était-ce pas trop déjà que ces féroces chasseurs fussent sur les traces de leur gibier ? David et sa femme, aidés par Kolb et par Marion, étaient-ils en état de résister aux ruses d'un Boniface Cointet ? Quand l'époque des couches de Madame Séchard arriva, le billet de 500 francs envoyé par Lucien, joint au second paiement de Cériset, permit de suffire à toutes les dépenses. Ève, sa mère et David, qui se croyaient oubliés par Lucien, éprouvèrent alors une joie égale à celle que leur donnaient les premiers succès du poète, dont les débuts dans le journalisme firent encore plus de tapage à Angoulême qu'à Paris. Endormi dans une sécurité trompeuse, David chancela sur ses jambes en recevant de son beau-frère ce mot cruel. « Mon cher David, j'ai négocié chez Métivier 3 billets signés de toi, faits à mon ordre, à 1, 2 et 3 mois d'échéance. Entre cette négociation et mon suicide, j'ai choisi cette horrible ressource qui, sans doute, te gênera beaucoup. Je t'expliquerai dans quelle nécessité je me trouve et je tâcherai d'ailleurs de t'envoyer les fonds à l'échéance. Brûle ma lettre. Ne dis rien ni à ma sœur ni à ma mère, car je t'avoue avoir compté sur ton héroïsme bien connu. De ton frère au désespoir, Lucien de Rubempré.
Ah, ton pauvre frère, dit David à sa femme, qui relevait alors de couche,
est dans d'affreux embarras.
Je lui ai envoyé 3 billets de 1 000 francs à 1, 2 et 3 mois. Prends-en note. »
Puis il s'en alla dans les champs afin d'éviter les explications que sa femme allait lui demander. Mais en commentant avec sa mère cette phrase pleine de malheur, Ève, déjà très inquiète du silence gardé par son frère depuis 6 mois, eut de si mauvais pressentiments que, pour les dissiper, elle se résolut à faire une de ces démarches conseillées par le désespoir. Monsieur de Rastignac, fils, était venu passer quelques jours dans sa famille, et il avait parlé de Lucien en assez mauvais termes pour que ses nouvelles de Paris, commentées par toutes les bouches qui les avaient colportées, fussent arrivées jusqu'à la sœur et à la mère du journaliste. Ève alla chez Madame de Rastignac, y sollicita la faveur d'une entrevue avec le fils, à qui elle fit part de toutes ses craintes en lui demandant la vérité sur la situation de Lucien à Paris. En un moment, Ève apprit la liaison de son frère avec Coralie, son duel avec Michel Chrétien, causé par sa trahison envers d'Arthez, enfin toutes les circonstances de la vie de Lucien, envenimées par un dandy spirituel qui sut donner à sa haine et à son envie les livrées de la pitié, la forme amicale du patriotisme alarmé sur l'avenir d'un grand homme et les couleurs d'une admiration sincère pour le talent d'un enfant d'Angoulême si cruellement compromis. Il parla des fautes que Lucien avait commises et qui venaient de lui coûter la protection des plus hauts personnages, de faire déchirer une ordonnance qui lui conférait les armes et le nom de Rubempré. « Madame, si votre frère eût été bien conseillé, il serait aujourd'hui dans la voie des honneurs et le mari de Madame de Bargeton. Mais que voulez-vous ? Il l'a quittée, insultée. Elle est, à son grand regret, devenue Madame la Comtesse Sixte du Châtelet, car elle aimait Lucien. « Est-il possible ? » s'écria Madame Séchard. Votre frère est un aiglon que les premiers rayons du luxe et de la gloire ont aveuglé. Quand un aigle tombe, qui peut savoir au fond de quel précipice il s'arrêtera? La chute d'un grand homme est toujours en raison de la hauteur à laquelle il est parvenu. Ève revint épouvantée avec cette dernière phrase qui lui traversa le cœur comme une flèche. Blessée dans les endroits les plus sensibles de son âme, elle garda chez elle le plus profond silence. Mais plus d'une larme coula sur les joues et sur le front de l'enfant qu'elle nourrissait. Il est si difficile de renoncer aux illusions que l'esprit de famille autorise et qui naissent avec la vie, qu'Ève se défia d'Eugène de Rastignac. Elle voulut entendre la voix d'un véritable ami. Elle écrivit donc une lettre touchante à d'Arthez, dont l'adresse lui avait été donnée par Lucien, au temps où Lucien était enthousiaste du Cénacle. Et voici la réponse qu'elle reçut. « Madame, vous me demandez la vérité sur la vie que mène à Paris monsieur votre frère. Vous voulez être éclairée sur son avenir. Et, pour m'engager à vous répondre franchement, vous me répétez ce que vous en a dit monsieur de Rastignac, en me demandant si de tels faits sont vrais. En ce qui me concerne, madame, il faut rectifier, à l'avantage de Lucien, les confidences de monsieur de Rastignac. Votre frère a éprouvé des remords. Il est venu me montrer la critique de mon livre, en me disant qu'il ne pouvait se résoudre à la publier malgré le danger que sa désobéissance aux ordres de son parti faisait courir à une personne bien chère. Hélas, madame, la tâche d'un écrivain est de concevoir les passions, puisqu'il met sa gloire à les exprimer. J'ai donc compris qu'entre une maîtresse et un ami, l'ami devait être sacrifié. J'ai facilité son crime à votre frère. J'ai corrigé moi-même cet article libellicide et l'ai complètement approuvé. Vous me demandez si Lucien a conservé mon estime et mon amitié. Ici, la réponse est difficile à faire. Votre frère est dans une voie où il se perdra. En ce moment, je le plains encore. Bientôt, je l'aurai volontairement oublié, non pas tant à cause de ce qu'il a déjà fait que de ce qu'il doit faire. Votre Lucien est un homme de poésie et non un poète. Il rêve et ne pense pas. Il s'agite et ne crée pas. Enfin, c'est, permettez-moi de le dire, une femmelette qui aime apparaître, le vice principal du français. Ainsi, Lucien sacrifiera toujours le meilleur de ses amis au plaisir de montrer son esprit. Il signerait volontiers demain un pacte avec le démon, si ce pacte lui donnait, pour quelques années, une vie brillante et luxueuse. N'a-t-il pas déjà fait pis en troquant son avenir contre les passagères délices de sa vie publique avec une actrice? En ce moment, la jeunesse, la beauté, le dévouement de cette femme, car il en est adoré, lui cache les dangers d'une situation que ni la gloire, ni le succès, ni la fortune ne font accepter par le monde. Eh bien, à chaque nouvelle séduction, votre frère ne verra, comme aujourd'hui, que les plaisirs du moment. Rassurez-vous, Lucien n'ira jamais jusqu'au crime. Il n'en aurait pas la force. Mais il accepterait un crime tout fait. Il en partagerait les profits, sans en avoir partagé les dangers. Ce qui semble horrible à tout le monde, même au scélérat. Il se méprisera lui-même. Il se repentira. Mais la nécessité revenant, il recommencerait, car la volonté lui manque. Il est sans force contre les amorces de la volupté, contre la satisfaction de ses moindres ambitions. Paresseux, comme tous les hommes à poésie, il se croit habile en escamotant les difficultés au lieu de les vaincre. Il aura du courage à telle heure, mais à telle autre, il sera lâche. Et il ne faut pas plus lui savoir gré de son courage que lui reprocher sa lâcheté. Lucien est une harpe dont les cordes se tendent ou s'amollissent au gré des variations de l'atmosphère. Il pourra faire un beau livre dans une phase de colère ou de bonheur et ne pas être sensible au succès après l'avoir cependant désiré. Dès les premiers jours de son arrivée à Paris, il est tombé dans la dépendance d'un jeune homme sans moralité, mais dont l'adresse et l'expérience, au milieu des difficultés de la vie littéraire, l'ont ébloui. Ce prestidigitateur a complètement séduit Lucien. Il l'a entraîné dans une existence sans dignité, sur laquelle, malheureusement pour lui, l'amour a jeté ses prestiges. Trop facilement accordée, l'admiration est un signe de faiblesse. On ne doit pas payer en même monnaie un danseur de cordes et un poète. Nous avons été tous blessés de la préférence accordée à l'intrigue et à la friponnerie littéraire sur le courage et sur l'honneur de ceux qui conseillaient à Lucien d'accepter le combat au lieu de dérober le succès, de se jeter dans l'arène au lieu de se faire un des trompettes de l'orchestre. La société, madame, est, par une bizarrerie singulière, pleine d'indulgence pour les jeunes gens de cette nature. Elle les aime, elle se laisse prendre au beau semblant de leurs dons extérieurs. D'eux, elle n'exige rien, elle excuse toutes leurs fautes, elle leur accorde les bénéfices des natures complètes en ne voulant voir que leurs avantages. Elle en fait ainsi ses enfants gâtés. Au contraire, elle est d'une sévérité sans bornes pour les natures fortes et complètes. Dans cette conduite, la société, si violemment injuste en apparence, est peut-être sublime. Elle s'amuse des bouffons sans leur demander autre chose que du plaisir et les oublie promptement. Tandis que, pour plier le genou devant la grandeur, elle lui demande toutes ses divines magnificences. À chaque chose sa loi. L'éternel diamant doit être sans tache. La création momentanée de la mode a le droit d'être légère, bizarre et sans consistance. Aussi, malgré ses erreurs, peut-être Lucien réussira-t-il à merveille. Il lui suffira de profiter de quelques veines heureuses ou de se trouver en bonne compagnie. Mais s'il rencontre un mauvais ange, il ira jusqu'au fond de l'enfer. C'est un brillant assemblage de belles qualités brodées sur un fond trop léger. L'âge emporte les fleurs, il ne reste un jour que le tissu. Et s'il est mauvais, on y voit un haillon. Tant que Lucien sera jeune, il plaira. Mais à 30 ans, dans quelle position sera-t-il? Telle est la question que doivent se faire ceux qui l'aiment sincèrement. Si j'eusse été seul à penser ainsi de Lucien, peut-être aurais-je évité de vous donner tant de chagrin par ma sincérité. Mais outre qu'éluder par des banalités les questions posées par votre sollicitude, me semblait indigne de vous, dont la lettre est un cri d'angoisse, et de moi, dont vous faites trop d'estime, ceux de mes amis qui ont connu Lucien sont unanimes en ce jugement. J'ai donc vu l'accomplissement d'un devoir dans la manifestation de la vérité, quelque terrible qu'elle soit. On peut tout attendre de Lucien, en bien comme en mal. Telle est notre pensée en un seul mot où se résume cette lettre. Si les hasards de sa vie, maintenant bien misérable, bien chanceuse, ramenaient ce poète vers vous, usez de toute votre influence pour le garder au sein de la famille. Car, jusqu'à ce que son caractère ait pris de la fermeté, Paris sera toujours dangereux pour lui. Il vous appelait, vous et votre mari, ses anges gardiens. Et il vous a sans doute oublié, mais il se souviendra de vous au moment où, battu par la tempête, il n'aura plus que sa famille pour asile. Gardez-lui donc votre cœur, madame. Il en aura besoin. Agréez, madame, les sincères hommages d'un homme à qui vos précieuses qualités sont connues et qui respecte trop vos maternelles inquiétudes pour ne pas vous offrir ici ses obéissances en se disant votre dévoué serviteur, D'Arthez.